Armance, suite 5.
Chapitre 15. How am I glutted with conceit of this? Shall I make spirits fetch me what I please? Resolve me of all ambiguities? Perform what desperate enterprise I will? Marlowe, Dr. Faustus.
Octave partait si souvent d'Andilly pour aller chercher Madame d'Aumale à Paris que quelques légers sentiments de jalousie vinrent un jour éteindre la gaieté d'Armance. Au retour de son cousin, le soir, elle fit acte de souveraineté. « Voulez-vous obliger Madame votre mère sur une chose dont jamais elle ne vous parlera ?»«
Sans doute. »
« Eh bien, pendant 3 mois, ce qui veut dire pendant 90 jours, ne refusez aucune invitation de bal, et ne quittez un bal qu'après avoir dansé. »«
J'aimerais mieux 15 jours d'arrêt, » dit Octave.
« Vous n'êtes pas difficile, » reprit Armance. « Mais promettez-vous ou non ?»«
Je promets tout, excepté les 3 mois de Constance. »«
Puisque l'on me tyrannise ici, » dit Octave en riant. « Moi, je déserterai. J'ai une ancienne idée qui, malgré moi, m'a occupé exclusivement hier toute la soirée à la fête magnifique de Monsieur Deux, où j'ai dansé comme si j'eusse deviné vos ordres. Si j'abandonnais Andilly pour 6 mois, j'ai 2 projets plus amusants que d'aller en Angleterre. Le premier est de me faire appeler Monsieur Lenoir. Sous ce beau nom, j'irai en province donner des leçons d'arithmétique, de géométrie appliquée aux arts, de tout ce qu'on voudra. Je prendrai ma route par Bourges, Aurillac, Cahors. J'aurai facilement des lettres de plusieurs pairs, membres de l'Institut, qui recommanderaient au préfet le savant et royaliste Lenoir, etc. Mais l'autre projet vaut mieux. En ma qualité de professeur, je ne verrai que de petites jeunes gens enthousiastes et changeants qui bientôt m'ennuieraient, et quelques intrigues de la congrégation. J'hésite à vous avouer le plus beau de mes projets. Je prendrai le nom de Pierre Gerlat. J'irai débuter à Genève ou à Lyon, et je me ferai le valet de chambre de quelques jeunes hommes destinés à jouer à peu près le même rôle que moi dans le monde. Pierre Gerlat serait porteur d'excellents certificats du vicomte de Malivert, qui l'a servi avec fidélité pendant 6 ans. En un mot, je prendrai le nom et l'existence de ce pauvre Pierre que j'ai une fois jeté par la fenêtre. 2 ou 3 de mes connaissances m'accorderont des certificats de complaisance. Ils les scelleront de leurs armes avec des paquets de cire énormes et, par ce moyen, j'espère me placer chez quelque jeune Anglais fort riche ou fils de père. J'aurai soin de me gâter les mains avec un acide étendu d'eau. J'ai appris à cirer les bottes de mon domestique actuel, le vaillant caporal Vorepe. Depuis 3 mois, je lui ai volé tous ses talents. Un soir, votre maître, en rentrant ivre, donnera des coups de pied à Pierre Gerlat. Quand il me jetterait par la fenêtre, j'ai prévu cette objection. Je me défendrai, et le lendemain demanderai mon congé, et ne lui en voudrai nullement. Vous vous rendriez coupable d'un abus de confiance fort condamnable. On laisse voir les défauts de son caractère à un jeune paysan qui est incapable d'en comprendre les traits les plus singuliers. Mais on se garderait bien, je suppose, d'agir ainsi devant un homme de sa classe.
Jamais je ne répéterai ce que j'aurais surpris. D'ailleurs, un maître, pour parler comme Pierre Gerlat, court bien la chance de tomber sur un fripon. Il n'aura qu'un curieux. Connaissez mes misères, poursuivit Octave.
Mon imagination est tellement sotte en de certains moments et s'exagère si fort ce que je dois à ma position que, sans être souverain, j'ai soif de l'incognito. Je suis souverain par le malheur, par le ridicule, par l'extrême importance que j'attache à certaines choses. J'éprouve un besoin impérieux de voir agir un autre vicomte de Malivert.
puisque malheureusement je suis embarqué dans ce rôle, puisqu'à mon grand et sincère regret, je ne puis pas être le fils du premier contremaître de la fabrique de cardes de M. de Liancourt, il me faut 6 mois de domesticité pour corriger le vicomte de Malivert de plusieurs de ses faiblesses. Ce moyen est le seul. Mon orgueil élève un mur de diamants entre moi et les autres hommes. Votre présence, chère cousine, fait disparaître ce mur de diamants. Devant vous, je ne prendrai rien à mauvaise part. Mais, par malheur, je n'ai pas le tapis magique pour vous transporter en tout lieu. Je ne puis vous voir entière quand je monte à cheval au bois de Boulogne avec un de mes amis. Bientôt, après la première connaissance, il n'en est aucun que mes discours n'étrangent de moi. Quand enfin, au bout d'un an, et bien malgré moi, ils me comprennent tout à fait, ils s'enveloppent dans la réserve la plus sévère, et aimeraient mieux, je crois, que leurs actions et leurs pensées intimes fussent connues du diable que de moi. Je ne voudrais pas jurer que plusieurs ne me prennent pour Lucifer lui-même. Comme dit M. de Soubirane, dont c'est un des bons mots, incarné tout exprès pour leur mettre Martel en tête. Octave racontait ses étranges idées à sa cousine en se promenant dans les bois de Montlignon, à quelques pas de mesdames de Bonnivet et de Malivert. Ces folies occupèrent beaucoup Armance. Le lendemain, après que son cousin fut parti pour Paris, l'air libre et enjoué, qui allait souvent jusqu'à la folie, fut remplacé par ces regards attendris et fixes, desquels, quand Octave était présent, il ne pouvait détacher les siens. Madame de Bonnivet invita beaucoup de monde, et Octave n'eut plus l'occasion de partir si souvent pour Paris, car Madame d'Aumale vint s'établir à Andy. En même temps qu'elle, arrivèrent 7 ou 8 femmes, fortes à la mode, et la plupart remarquables par le brillant de l'esprit ou l'influence qu'elles avaient obtenue dans la société. Mais leur amabilité ne fit qu'ajouter au triomphe de la charmante comtesse. Sa seule présence dans un salon vieillissait ses rivales. Octave avait trop d'esprit pour ne pas le sentir, et les moments de rêverie d'Armance devinrent plus fréquents. « De qui pourrais-je me plaindre ?» se disait-elle. « De personne, et surtout d'Octave moins que de personne. Ne lui ai-je pas dit que je préfère un autre homme ? Il a trop de fierté dans le caractère pour se contenter de la seconde place dans un cœur. » Il s'attache à Madame d'Aumale. « C'est une beauté brillante et citée partout. Et moi, je ne suis pas même jolie. Ce que je puis dire à Octave est d'un intérêt bien pâle. Je suis sûre que souvent je l'ennuie, ou je l'intéresse comme une sœur. La vie de Madame d'Aumale est gaie, singulière. Jamais rien ne languit dans les lieux où elle se trouve. Et il me semble que je m'ennuierais souvent dans le salon de ma tante si j'écoutais ce qu'on y dit. » Armance pleurait, mais cette âme noble ne s'abaissa point jusqu'à avoir de la haine pour Madame d'Aumale. Elle observait chacune des actions de cette femme aimable avec une attention profonde et qui la conduisait souvent à des moments fort vifs d'admiration. Mais chaque acte d'admiration était un coup de poignard pour son cœur. Le bonheur tranquille disparut. Armance fut en proie à toutes les angoisses des passions. La présence de Madame d'Aumale en vint à la troubler plus que celle d'Octave lui-même. Le tourment de la jalousie est surtout affreux quand il déchire des cœurs à qui leur penchant comme leur position interdisent également tous les moyens de plaire un peu hasardés.
Chapitre 16. Let Rome in Tiber melt, and the white arch of the ranged empire fall. Here is my space. Kingdoms are clay. Our dungy earth alike feeds beast as man. The nobleness of life is to love thus. Antony and Cleopatra, Act 1.
Un soir, après une journée d'une accablante chaleur, on se promenait lentement dans les jolis bosquets de châtaigniers qui couronnent les hauteurs d'Andilly.
Quelquefois, de jour, ces bois sont gâtés par la présence des curieux. Dans cette nuit charmante qu'éclairait la lumière tranquille d'une belle lune d'été, ces collines solitaires offraient des aspects enchanteurs. Une brise douce se jouait parmi les arbres et complétait les charmes de cette soirée délicieuse. Par je ne sais quel caprice, Madame d'Aumale voulait, ce jour-là, avoir toujours Octave auprès d'elle. Elle lui rappelait avec complaisance et sans nul ménagement pour les hommes qui l'entouraient que c'était dans ces bois qu'elle l'avait vu pour la première fois. Vous étiez déguisé en magicien, et jamais première entrevue ne fut plus prophétique, ajoutait-elle, car jamais vous ne m'avez ennuyé, et il n'est pas d'homme de qui je puisse en dire autant. Armance, qui se promenait avec eux, ne pouvait s'empêcher de trouver ses souvenirs fort tendres. Rien n'était aimable comme cette brillante comtesse, ordinairement si gaie, daignant parler d'une voix sérieuse des grands intérêts de la vie et des routes à suivre pour arriver au bonheur. Octave s'éloigna du groupe de Madame d'Aumale et, se trouvant bientôt avec Armance, à quelques pas du reste des promeneurs, il se mit à lui raconter, avec le plus grand détail, tout l'épisode de sa vie où Madame d'Aumale se trouvait mêlée. « J'ai cherché cette liaison brillante, lui dit-il, pour ne pas choquer la prudence de Madame de Bonnivet, qui, sans cette précaution, aurait bien pu finir par m'éloigner de son intimité. » Une chose si tendre fut dite sans parler d'amour. Quand Armance put espérer que sa voix ne trahirait plus le trouble extrême où ce récit l'avait jeté, « Je crois, mon cher cousin, lui dit-elle, je crois, comme je le dois, tout ce que vous me racontez. Ce sont pour moi paroles d'évangile. Je remarque pourtant que jamais vous n'avez attendu, pour me faire confidence d'une de vos démarches, qu'elle fût aussi avancée. » À cela, j'ai une réponse toute prête. Mademoiselle Mary de Tersan et vous, vous prenez quelquefois la licence de vous moquer de mes succès. Il y a 2 mois, par exemple, un certain soir, vous m'avez presque accusé de fatuité. J'aurais bien pu, dès ce temps-là, vous confier le sentiment décidé que j'ai pour Madame d'Aumale, mais il fallait en être bien traité sous vos yeux. Avant le succès, votre esprit malin n'eût pas manqué de se moquer de mes petits projets. Aujourd'hui, la seule présence de Mademoiselle de Tersan manque à mon bonheur. » Il y avait dans l'accent profond et presque attendri avec lequel Octave disait ces vaines paroles une si grande impossibilité d'aimer les grâces un peu hasardées de la jolie femme dont il parlait et un dévouement si passionné pour l'amie à laquelle il se confiait qu'elle n'eut pas le courage de résister au bonheur de se voir aimer ainsi. Elle s'appuyait sur le bras d'Octave et l'écoutait comme ravie, en extase. Tout ce que sa prudence pouvait obtenir d'elle, c'était de ne pas parler. Le son de sa voix eut fait connaître à son cousin toute la passion qui l'inspirait. Le bruissement léger des feuilles, agité par le vent du soir, semblait prêter un nouveau charme à leur silence. Octave regardait les grands yeux d'Armance qui se fixaient sur les siens. Tout à coup, ils comprirent un certain bruit qui, depuis quelque temps, frappait leur oreille sans attirer leur attention. Madame d'Aumale, étonnée de l'absence d'Octave et trouvant qu'il lui manquait, l'appelait de toutes ses forces. « On vous appelle, » dit Armance. Et le ton de voix brisé avec lequel elle dit ces mots si simples eut appris à tout autre qu'Octave l'amour qu'on avait pour lui. Mais il était si étonné de ce qui se passait dans son cœur, si troublé par le beau bras d'Armance à peine voilé d'une gaze légère qu'il tenait contre sa poitrine, qu'il n'avait d'attention pour rien. Il était hors de lui. Il goûtait les plaisirs de l'amour le plus heureux, et se l'avouait presque. Il regardait le chapeau d'Armance qui était charmant. Il regardait ses yeux. Jamais Octave ne s'était trouvé dans une position aussi fatale à ses serments contre l'amour. Il avait cru plaisanter, comme de coutume, avec Armance. Et la plaisanterie avait pris tout à coup un tour grave et imprévu. Il se sentait entraîné. Il ne raisonnait plus. Il était au comble du bonheur. Ce fut un de ces instants rapides que le hasard accorde quelquefois, comme compensation de tant de maux, aux âmes faites pour sentir avec énergie. La vie se presse dans les cœurs, l'amour fait oublier tout ce qui n'est pas divin comme lui, et l'on vit plus en quelques instants que pendant de longues périodes. On entendait encore de temps en temps la voix de Madame d'Aumale qui appelait Octave, et le son de cette voix achevait d'ôter toute prudence à la pauvre Armance. Octave sentait qu'il devait quitter le beau bras qu'il pressait un peu contre sa poitrine. Il devait se séparer d'Armance. Il s'en fallut de bien peu qu'en la quittant, il n'osa lui prendre la main et la presser contre ses lèvres. S'il se fût permis cette marque d'amour, Armance était si troublée en ce moment qu'elle lui eût laissé voir et peut-être avoué tout ce qu'elle sentait pour lui. Ils se rapprochèrent des autres promeneurs. Octave marchait un peu en avant. À peine Madame d'Aumale le revit-elle qu'elle lui dit d'un petit air boudeur et sans qu'Armance pût l'entendre « Je suis étonnée de vous revoir si tôt. Comment avez-vous pu quitter Armance pour moi ? Vous êtes amoureux de cette belle cousine. Ne vous en défendez pas, je m'y connais. » Octave n'était pas encore remis de l'ivresse qui venait de s'emparer de lui. Il voyait toujours ce beau bras d'Armance pressé contre sa poitrine. Le mot de Madame d'Aumale fut un coup de foudre pour lui. Il se sentit frappé. Cette voix frivole lui sembla comme un arrêt du destin qui tombait d'en haut. Il lui trouva un son extraordinaire. Ce mot imprévu, en découvrant à Octave la véritable situation de son cœur, le précipita du comble de la félicité dans un malheur affreux et sans espoir.
Chapitre 17. What is a man, if his chief good and market of his time be but to sleep and feed? A beast no more. Rightly to be great is not to stir without great argument, but greatly to find quarrel in a straw when honour's at the stake. Hamlet, Act 4.
Il avait donc eu la faiblesse de violer les serments qu'il s'était faits tant de fois. Un instant avait renversé l'ouvrage de toute sa vie. Il venait de perdre tous les droits à sa propre estime. Le monde, désormais, était fermé pour lui. Il n'avait pas assez de vertu pour y vivre. Il ne lui restait que la solitude et l'habitation au fond de quelque désert. L'excès de la douleur et son arrivée imprévue auraient pu causer un peu de trouble à l'âme la plus ferme. Heureusement, Octave vit à l'instant que s'il ne répondait pas rapidement et de l'air le plus calme à Madame d'Aumale, la réputation d'Armance pouvait souffrir. Il passait sa vie avec elle, et le mot de Madame d'Aumale avait été saisi par deux ou trois personnages qui le détestaient ainsi qu'Armance. « Moi, aimé !» dit-il à Madame d'Aumale. « Hélas, c'est un avantage qu'apparemment le ciel m'a refusé. Je ne l'ai jamais mieux senti, ni plus vivement regretté. Je vois tous les jours, et moins souvent que je ne le voudrais, la femme la plus séduisante de Paris. Lui plaire est sans doute le plus beau projet que puisse former un jeune homme de mon âge. Sans doute elle n'eût pas accepté mes hommages, mais enfin, jamais je ne me suis senti le degré de folie qui m'eût rendu digne de les lui présenter. Jamais je n'ai perdu auprès d'elle le plus beau sang-froid. Après un tel trait de sauvagerie et d'insensibilité, je désespère de jamais perdre terre auprès d'aucune femme. » Jamais Octave n'avait tenu ce langage. Cette explication, presque parlementaire, fut adroitement prolongée et avidement écoutée. Il y avait là deux ou trois hommes faits pour plaire et qui croyaient souvent voir un rival heureux dans Octave. Celui-ci eut le bonheur de rencontrer quelques mots piquants. Il parla beaucoup, continua d'alarmer les amours-propres, et enfin eut lieu d'espérer que personne ne songeait plus aux mots trop vrais qui venaient d'échapper à Madame d'Aumale. Elle l'avait dit d'un air senti. Octave pensait qu'il devait l'occuper fortement d'elle-même. Après avoir prouvé qu'il ne pouvait pas aimer, pour la première fois de sa vie, il se permit, avec Madame d'Aumale, les demi-mots presque tendres. Elle en fut étonnée. À la fin de la soirée, Octave était tellement certain d'avoir éloigné tout soupçon qu'il commença à avoir le temps de penser à lui. Il redoutait le moment où l'on se séparerait et où il aurait la liberté de regarder son malheur en face. Il commençait à compter les heures que marquait l'horloge du château. Minuit était déjà sonné depuis longtemps, mais la soirée était si belle qu'on aimait à la prolonger. Une heure sonna, et Madame d'Aumale renvoya ses amis. Octave eut encore un moment de répit. Il fallait aller chercher le valet de chambre de sa mère pour lui dire qu'il allait coucher à Paris. Ce devoir rempli, il rentra dans le bois, et ici, les expressions me manquent pour donner quelque idée de la douleur qui s'empara de ce malheureux. « J'aime !» se dit-il d'une voix étouffée. « Moi, aimer, grand Dieu !» Et le cœur serré, la gorge contractée, les yeux fixes et levés au ciel, il resta immobile, comme frappé d'horreur. Bientôt après, il marchait à pas précipités. Incapable de se soutenir, il se laissa tomber sur le tronc d'un vieux arbre qui barrait le chemin. Et dans ce moment, il lui sembla voir encore plus clairement toute l'étendue de son malheur. « Je n'avais pour moi que ma propre estime, se dit-il. Je l'ai perdue. » L'aveu de son amour qu'il se faisait bien nettement et sans trouver aucun moyen de le nier, fut suivi de transports de rage et de cris de fureur inarticulés. La douleur morale ne peut aller plus loin. Une idée, ressource ordinaire des malheureux qui ont du courage, lui apparut bien vite. Mais il se dit « Si je me tue, Armand sera compromise. Toute la société recherchera curieusement pendant 8 jours les plus petites circonstances de cette soirée. » Et chacun de ces messieurs qui étaient présents sera autorisé à faire un récit différent. Rien d'égoïste, rien de ce qui se rattache aux intérêts vulgaires de la vie ne se rencontra dans cette âme noble pour s'opposer au transport de l'affreuse douleur qui la déchirait. Cette absence de tout intérêt commun, capable de faire diversion en de tels moments, est une des punitions que le ciel semble prendre plaisir à infliger aux âmes élevées. Les heures s'écoulèrent rapidement, sans diminuer le désespoir d'Octave. Quelquefois, immobile pendant plusieurs minutes, il sentait cette affreuse douleur qui comble la torture des plus grands criminels. Il se méprisait parfaitement lui-même. Il ne pouvait pleurer. La honte dont il se trouvait si digne l'empêchait d'avoir pitié de lui-même et sécher ses larmes. « Ah ! » s'écria-t-il dans un de ces instants cruels, « si je pouvais en finir !» Et il s'accorda la permission de savourer en idée le bonheur de cesser de sentir. Avec quel plaisir il se serait donné la mort, en punition de sa faiblesse et comme pour se faire réparation d'honneur. « Oui ! » se disait-il. « Mon cœur est digne de mépris, parce qu'il a commis une action que je m'étais défendue sous peine de la vie. Et mon esprit est, s'il se peut, encore plus méprisable que mon cœur. Je n'ai pas vu une chose évidente. J'aime Armance, et je l'aime depuis que je me suis soumis à entendre les dissertations de Madame de Bonnivet sur la philosophie allemande. J'avais la folie de me croire philosophe. Dans ma présomption sotte, je m'estimais infiniment supérieur au vain raisonnement de Madame de Bonnivet, et je n'ai pas su voir dans mon cœur ce que la plus faible femme aurait lu dans le sien. Une passion puissante, évidente, et qui, dès longtemps, a détruit tout l'intérêt que je prenais autrefois aux choses de la vie. Tout ce qui ne peut
pas me parler d'Armance, et pour moi comme non existant. Je me jugeais sans cesse moi-même, et je n'ai pas vu ces choses. Ah, que je suis méprisable !» La voix du devoir, qui commençait à se faire entendre, prescrivait à Octave de fuir mademoiselle de Zoïlov à l'instant. Mais loin d'elle, il ne pouvait voir aucune action qui valût la peine de vivre. Rien ne lui semblait digne de lui inspirer le moindre intérêt. Tout lui paraissait également insipide. L'action la plus noble, comme l'occupation la plus vulgairement utile. Marcher au secours de la Grèce et aller se faire tuer à côté de Favier, comme faire obscurément des expériences d'agriculture au fond d'un département. Son imagination parcourait rapidement toute l'échelle des actions possibles pour retomber ensuite avec plus de douleur sur le désespoir le plus profond, le plus sans ressources, le plus digne de son nom. Ah, que la mort eût été agréable dans ces instants! Octave se disait à haute voix des choses folles et de mauvais goût, dont il observait curieusement le mauvais goût et la folie. « À quoi bon m'abuser encore ? » s'écria-t-il tout à coup, dans un moment où il se détaillait à lui-même des expériences d'agriculture à faire parmi les paysans du Brésil. « À quoi bon avoir la lâcheté de m'abuser encore ? Pour comble de douleur, je puis me dire qu'Armance a de l'amour pour moi, et mes devoirs n'en sont que plus sévères. Quoi ? Si Armance était engagée, l'homme à qui elle a promis sa main, eût-il souffert qu'elle passât sa vie uniquement avec moi ? Et sa joie si calme en apparence, mais si profonde et si vraie, quand hier soir je lui ai révélé le plan de ma conduite avec Madame d'Aumale. À quoi faut-il l'attribuer ? N'est-ce pas là une preuve plus claire que le jour ? J'ai pu m'abuser. Mais j'étais donc hypocrite avec moi-même. Mais j'étais donc sur le chemin qu'ont suivi les plus vifs scélérats. Quoi ? Hier soir, à 10 heures, je n'ai pas aperçu une chose qui, quelques heures plus tard, me semble de la dernière évidence. Ah, que je suis faible et méprisable !» Avec tout l'orgueil d'un enfant, en toute ma vie, je ne me suis élevée à aucune action d'homme. Et non seulement j'ai fait mon propre malheur, mais j'ai entraîné dans l'abîme l'être du monde qui m'était le plus cher. Ô ciel ! Comment s'y prendrait-on pour être plus vil que moi ? Ce moment produisit presque le délire. La tête d'Octave était comme désorganisée par une chaleur brûlante. À chaque pas que faisait son esprit, il découvrait une nouvelle nuance de malheur, une nouvelle raison pour se mépriser. Cet instinct de bien-être qui existe toujours chez l'homme, même dans les instants les plus cruels, même au pied de l'échafaud, fit qu'Octave voulut, comme s'empêcher de penser. Il se serrait la tête des deux mains. Il faisait comme des efforts physiques pour ne pas penser. Peu à peu, tout lui devint indifférent, excepté le souvenir d'Armance qu'il devait fuir pour toujours, et ne jamais revoir sous quelque prétexte que ce fût. L'amour filial même, si profondément empreint dans son âme, en avait disparu. Il n'eut plus que deux idées, quitter Armance et ne jamais se permettre de la revoir. Supporter ainsi la vie, un an ou deux, jusqu'à ce qu'elle fût mariée ou que la société l'eût oubliée. Après quoi, comme on ne songerait plus à lui, il serait libre de finir. Tel fut le dernier sentiment de cette âme, épuisée par les souffrances. Octave s'appuya contre un arbre et tomba, évanoui. Lorsqu'il revint à la vie, il éprouvait un sentiment de froid extraordinaire. Il ouvrit les yeux. Le jour commençait à poindre. Il se trouva soigné par un paysan qui tâchait de le faire revenir à lui en l'inondant de l'eau froide qu'il allait prendre dans son chapeau à une source voisine. Octave eut un instant de trouble. Ses idées n'étaient pas nettes. Il se trouvait placé sur le revers d'un fossé, au milieu d'une clairière, dans un bois. Il voyait de grandes masses arrondies de brouillard qui passaient rapidement devant lui.
il ne reconnaissait point le lieu où il était. Tout à coup, tous ses malheurs se présentèrent à sa pensée. On ne meurt pas de douleur. Où il fut mort en cet instant. Il lui échappa quelques cris qui alarmèrent le paysan. La frayeur de cet homme rappela Octave au sentiment du devoir. Il ne fallait pas que ce paysan parlât. Octave prit sa bourse pour lui offrir quelque argent. Il dit à cet homme, qui paraissait avoir pitié de son état, qu'il se trouvait dans le bois à cette heure, par suite d'un pari imprudent, et qu'il était fort important pour lui qu'on ne sût pas que la fraîcheur de la nuit l'avait incommodé. Le paysan avait l'air de ne pas comprendre. « Si l'on sait que je me suis évanoui, dit Octave, on se moquera de moi. » « Ah, j'entends, dit le paysan, comptez que je ne soufflerai mot. Il ne sera pas dit que je vous ai fait perdre votre pari. Il est heureux pour vous, cependant, que je sois passé, car, ma foi, vous aviez l'air mort. » Octave, au lieu de l'écouter, regardait sa bourse. C'était une nouvelle douleur, c'était un présent d'Armance. Il avait du plaisir à sentir sous ses doigts chacune des petites perles d'acier qui étaient attachées au tissu sombre. Dès que le paysan l'eut quitté, Octave rompit une jeune tige de châtaignier avec laquelle il fit un trou dans la terre. Il se permit de donner un baiser à la bourse, présent d'Armance, et il l'enterra au lieu même où il s'était évanoui. « Voilà, se dit-il, ma première action vertueuse. Adieu. Adieu pour la vie, chère Armance. Dieu sait si je t'ai aimé. »
Chapitre 18. Sur son sein d'albâtre, elle porte une croix brillante où l'enfant de Jacob imprimerait ses lèvres avec respect et que l'infidèle adorerait. Schiller.
Un mouvement instinctif le précipita vers le château. Il sentait confusément que raisonner avec lui-même était le plus grand des maux. Mais il avait vu quel était son devoir, et il comptait se trouver le courage nécessaire pour accomplir les actions qui se présenteraient quelles qu'elles fussent. Il justifia son retour au château, que lui inspirait l'horreur de se trouver seul, par l'idée que quelques domestiques pouvaient arriver de Paris et dire qu'on ne l'avait pas vu dans la rue Saint-Dominique, ce qui aurait pu faire découvrir sa folie et donner de l'inquiétude à sa mère. Octave se trouvait assez loin du château. « Ah ! » se dit-il en traversant le bois pour y revenir. « Hier encore, il y avait ici des enfants qui chassaient. Si quelque enfant maladroit, en tirant un oiseau derrière une haie, pouvait me tuer, je n'aurais aucun reproche à me faire. » Dieu, quelle délice de recevoir un coup de fusil dans cette tête brûlante! Comme je le remercierais avant que de mourir si j'en avais le temps! On voit qu'il entrait un peu de folie dans la manière d'être d'Octave ce matin-là. L'espérance romanesque d'être tué par un enfant lui fit ralentir le pas, et son âme, par l'effet d'une petite faiblesse à demi aperçue, se refusa à considérer la légitimité de cette action. Enfin, il rentra au château par la petite porte du jardin, et la première personne qu'il aperçut, ce fut Armance. Il demeura immobile. Son sang se glaça. Il ne croyait pas la rencontrer si tôt. Dès qu'elle l'aperçut de loin, Armance accourut en souriant. Elle avait la grâce et la légèreté d'un oiseau. Jamais il ne l'avait trouvée si jolie. Elle songeait à ce qu'il lui avait dit la veille sur sa liaison avec Madame d'Aumale. « Je la vois donc pour la dernière fois, » se dit Octave. Et il la regardait avidement. Le grand chapeau de paille d'Armance, sa taille noble, les grosses boucles de cheveux qui s'échappaient sur ses joues, et faisaient un contraste charmant avec ses regards si pénétrants et cependant si doux. Il cherchait à tout graver dans son âme. Mais ses regards si riants, à mesure qu'Armand s'approchait, perdaient bien vite leur air de bonheur. Elle trouvait quelque chose de sinistre dans la manière d'être d'Octave. Elle remarqua que ses vêtements étaient trempés d'eau. Elle lui dit d'une voix que l'émotion faisait trembler. Qu'avez-vous, mon cousin ? En prononçant ces mots si simples, elle put à peine retenir ses larmes, tant elle apercevait une étrange expression dans ses regards. « Mademoiselle, lui répondit-il d'un air glacial, vous me permettrez de n'être pas fort sensible à un intérêt qui s'attache à moi, comme pour me priver de toute liberté. Il est vrai, j'arrive de Paris, et mes habits sont mouillés. Si ces explications ne suffisent pas à la curiosité, j'en donnerai de plus détaillées. » Ici, la cruauté d'Octave fut arrêtée malgré lui. Armance, dont les traits étaient d'une mortelle pâleur, semblait faire de vains efforts pour s'éloigner. Elle chancelait visiblement et était sur le point de tomber. Il s'approcha pour lui donner le bras. Armance le regardait avec des yeux mourants, mais qui d'ailleurs semblaient incapables d'aucune idée. Octave prit sa main avec assez de brusquerie, la plaça sous son bras et marcha vers le château. Mais il sentait que les forces lui manquaient aussi. Prêt à tomber lui-même, il eut cependant le courage de lui dire « Je vais partir. Je dois partir pour un long voyage en Amérique. J'écrirai. Je compte sur vous pour consoler ma mère. Dites-lui que je reviendrai certainement. Quant à vous, mademoiselle, on a prétendu que j'avais de l'amour pour vous. Je suis bien éloignée d'avoir une telle prétention. D'ailleurs, l'ancienne amitié qui nous unit devait suffire, ce me semble, pour s'opposer à la naissance de l'amour. Nous nous connaissons trop bien pour avoir l'un pour l'autre ces sortes de sentiments qui supposent toujours un peu d'illusion. » En ce moment, Armance se trouva hors d'état de marcher. Elle releva ses yeux baissés et regarda Octave. Ses lèvres tremblantes et pâles semblaient vouloir prononcer quelques mots. Elle voulut s'appuyer sur la caisse d'un oranger, mais elle n'eut pas la force de se retenir. Elle glissa et tomba près de cet oranger, privée de tout sentiment. Sans la secourir aucunement, Octave resta immobile à la regarder. Elle était profondément évanouie. Ses yeux si beaux étaient encore à demi ouverts. Les contours de cette bouche charmante avaient conservé l'expression d'une douleur profonde. Toute la rare perfection de ce corps délicat se trahissait sous un simple vêtement du matin. Octave remarqua une petite croix de diamant qu'Armance portait ce jour-là pour la première fois. Il eut la faiblesse de prendre sa main. Toute sa philosophie avait disparu. Il vit que la caisse de l'oranger le dérobait à la curiosité des habitants du château. Il se mit à genoux à côté d'Armance. « Pardon, oh mon cher ange, » dit-il à voix basse et en couvrant de baisers cette main glacée. « Jamais je ne t'ai tant aimé. » Armance fit un mouvement. Octave se releva comme par un effort convulsif. Bientôt Armance put marcher et il la reconduisit au château sans oser la regarder. Il se reprochait amèrement l'indigne faiblesse à laquelle il venait d'être entraîné. Si Armance l'avait aperçu, toute la cruauté de ses propos devenait inutile. Elle se hâta de le quitter en rentrant au château. Dès que Madame de Malivert fut visible, Octave se fit annoncer chez elle et se précipita dans ses bras. « Chère maman, donne-moi la permission de voyager. C'est la seule ressource qui me reste pour éloigner un mariage abhorré, sans manquer au respect que je dois à mon père. » Madame de Malivert, fort étonnée, essaya en vain d'obtenir de son fils quelques mots plus positifs sur ce prétendu mariage. « Quoi ? » lui disait-elle. « Ni le nom de la demoiselle, ni l'indication de la famille, je ne puis rien savoir de toi, mais il y a de la folie. » Bientôt, Madame de Malivert n'osa plus se servir de ce mot, qui lui semblait trop vrai. Tout ce qu'elle put obtenir de son fils, qui semblait déterminé à partir dans la journée, ce fut qu'il n'irait pas en Amérique. Le but du voyage était égal à Octave, il n'avait songé qu'à la douleur du départ. En parlant à sa mère, comme il s'efforçait, pour ne pas l'effrayer, d'avoir des idées plus modérées, une raison plausible lui vint tout à coup. « Chère maman, un homme qui porte le nom de Malivert et qui a le malheur de n'avoir encore rien fait à 20 ans, doit commencer par aller à la croisade, comme nos aïeux. Je te prie de permettre que je passe en Grèce. Si tu l'exiges, je dirai à mon père que je vais à Naples. Là, comme par hasard, la curiosité m'entraînera vers la Grèce. Et n'est-il pas naturel qu'un gentilhomme la voie l'épée à la main ? Cette manière d'annoncer mon voyage le dépouillera de tout air de prétention. » Ce projet donna de vives inquiétudes à madame de Malivert, mais il avait quelque chose de généreux, et il était d'accord avec ses idées sur le devoir. Après une conversation de 2 heures, qui fut un moment de repos pour Octave, il obtint le consentement de sa mère. Pressé dans les bras de cette tendre amie, il eut pendant un court moment le bonheur de pouvoir pleurer. Il consentit à des conditions qu'il eût refusées en entrant chez elle. Il lui promit que, si elle l'exigeait, 12 mois après le jour de son débarquement en Grèce, il viendrait passer 15 jours avec elle. « Mais, chère maman, pour ne pas avoir le désagrément de voir mon voyage dans le journal, consent à recevoir ma visite dans ta terre de Malivert, en Dauphiné. » Tout fut arrangé suivant ses désirs, et des larmes de tendresse scellèrent les conditions de ce départ imprévu. Au sortir de chez sa mère, ayant accompli ses devoirs à l'égard d'Armance, Octave se trouva le sang-froid nécessaire pour entrer chez le marquis. « Mon père, dit-il après l'avoir embrassé, permets à ton fils de te faire une question. Quelle fut la première action d'Enguerrand de Malivert, qui vivait en 1147 sous Louis le Jeune ?» Le marquis ouvrit son bureau avec empressement, en tira un beau parchemin roulé qui ne le quittait jamais. C'était la généalogie de sa famille. Il vit avec un extrême plaisir que la mémoire de son fils l'avait bien servi. « Mon ami, dit le vieillard en déposant ses lunettes, Enguerrand de Malivert partit en 1147 pour la croisade avec son roi. « N'est-ce pas 19 ans qu'il avait alors ? Reprit Octave. « Précisément, 19 ans, dit le marquis de plus en plus satisfait du respect dont le jeune vicomte faisait preuve pour l'arbre généalogique de la famille. Quand Octave eut donné au contentement de son père le temps de se développer et de bien s'établir dans son âme, « Mon père, lui dit-il d'une voix ferme, noblesse oblige, j'ai 20 ans passés, je me suis assez occupé de livres. Je viens vous demander votre bénédiction et la permission de voyager en Italie et en Sicile. Je ne vous cacherai point, mais c'est à vous seul que je ferai cet aveu, que de Sicile, je serai entraîné à passer en Grèce. Je tâcherai d'assister à un combat et reviendrai auprès de vous, un peu plus digne peut-être du beau nom que vous m'avez transmis. » Le marquis, quoique fort brave, n'avait point l'âme de ses aïeux du temps de Louis le Jeune. Il était père, et un tendre père du 19e siècle. Il resta tout interdit de la soudaine résolution d'Octave. Il se fût volontiers accommodé d'un fils moins héroïque. Toutefois, l'air austère de ce fils et la fermeté de résolution que trahissaient ses manières lui imposèrent. La vigueur de caractère n'avait jamais été son fort, et il n'osa refuser une permission qu'on lui demandait d'un air à s'en passer s'il la refusait. « Tu me perces le cœur, » dit le bon vieillard en s'approchant de son bureau. Et sans que son fils le lui eût demandé, d'une main tremblante, il écrivit un bon d'une somme assez forte sur un notaire qui avait des fonds à lui. « Prends, » dit-il à Octave, « et plaise à Dieu que ce ne soit pas le dernier argent que je te donne. » Le déjeuner sonna. Heureusement, mesdames d'Aumale et de Bonnivet se trouvaient à Paris, et cette triste famille ne fut pas obligée de cacher sa douleur par de vaines paroles. Octave, un peu fortifié par la conscience d'avoir fait son devoir, se sentit le courage de continuer. Il avait eu l'idée de partir avant le déjeuner. Il pensa qu'il était mieux d'agir exactement comme à l'ordinaire. Les domestiques pouvaient parler. Il se plaça à la petite table du déjeuner vis-à-vis d'Armance. « C'est pour la dernière fois de ma vie que je la vois, » se dit-il. Armance eut le bonheur de se brûler d'une manière assez douloureuse en faisant le thé. Ce hasard aurait servi d'excuse à son trouble si quelqu'un dans cette petite salle se fût trouvé assez de sang-froid pour le remarquer. Monsieur de Malivert avait la voix tremblante. Pour la première fois de sa vie, il ne trouvait rien d'agréable à dire. Il cherchait si quelque prétexte compatible avec le grand mot « noblesse oblige » que son fils lui avait cité si à propos, ne pourrait point lui fournir le moyen de retarder ce départ.
Chapitre 19. He unworthy, you say? 'Tis impossible. It would be more easy to die. Dacca.
Octave crut remarquer que Mademoiselle de Zoïlov le regardait quelquefois avec assez de tranquillité. En dépit de sa farouche vertu, qui lui défendait hautement de songer à des rapports qui n'existaient plus, il ne put s'empêcher de penser que c'était la première fois qu'il la revoyait, depuis qu'il s'était avoué qu'il l'aimait. Le matin, dans le jardin, il était troublé par la nécessité d'agir. « C'est donc là, » se disait-il, « l'impression que fait la vue d'une femme qu'on aime. Mais il est possible qu'Armance n'ait pour moi que de l'amitié. Cette nuit, c'était encore un mouvement de présomption qui me faisait penser le contraire. » Durant ce pénible déjeuner, on ne dit pas un mot du sujet qui occupait tous les cœurs. Pendant qu'Octave était chez son père, Madame de Malivert avait fait appeler Armance pour lui apprendre l'étrange projet de voyage. Cette pauvre fille avait besoin de sincérité. Elle ne put s'empêcher de dire à Madame de Malivert « Eh bien, maman, vous voyez si vos idées étaient fondées !» Ces deux aimables femmes étaient plongées dans la plus amère douleur. « Quelle est la cause de ce départ ? » répétait Madame de Malivert. « Car ce ne peut être un trait de folie, tu l'en as guéri !» Il fut convenu qu'on ne parlerait à personne du voyage d'Octave, pas même à Madame de Bonnivet. Il ne fallait pas le lier à son projet. « Et peut-être, » disait Madame de Malivert, « nous est-il encore permis d'espérer ? Il abandonnera un dessein si brusquement conçu. » Cette conversation rendit plus cruelle, s'il est possible, la douleur d'Armance. Toujours fidèle au silence éternel qu'elle croyait devoir au sentiment qui existait entre elle et son cousin, elle portait la peine de sa discrétion. Les paroles de Madame de Malivert, de cette amie si prudente et qui l'aimait si tendrement, portant sur des faits qu'elle ne connaissait que d'une manière imparfaite, n'étaient d'aucune consolation pour Armance. Et cependant, quel besoin n'eût-elle pas eu de consulter une amie sur les diverses causes qui lui semblaient avoir pu amener également la conduite si bizarre de son cousin ? Mais rien au monde, pas même la douleur atroce qui déchirait son âme, ne pouvait lui faire oublier ce qu'une femme se doit à elle-même. Elle serait morte de honte plutôt que de répéter les paroles que l'homme qu'elle préférait lui avait adressées le matin. « Si je faisais une telle confidence, se disait-elle, et qu'Octave le sût, il cesserait de m'estimer. » Après le déjeuner, Octave se hâta de partir pour Paris. Il agissait brusquement et il avait renoncé à se rendre raison de ses mouvements. Il commençait à sentir toute l'amertume de son projet de départ et redoutait le danger de se trouver seul avec Armance. Si son angélique bonté n'était pas irritée de l'effroyable dureté de sa conduite, si elle daignait lui parler, pouvait-il se promettre de ne pas s'attendrir en disant un éternel adieu à cette cousine si belle et si parfaite ? Elle verrait qu'il l'aimait. Il n'en faudrait pas moins partir ensuite, et avec le remords éternel de n'avoir pas fait son devoir même en ce moment suprême. Ses devoirs les plus sacrés n'était-il pas envers l'être qui lui était le plus cher au monde et dont peut-être il avait compromis la tranquillité ? Octave sortit de la cour du château avec le sentiment qu'on aurait en marchant à la mort. Et, à vrai dire, il eût été heureux de n'avoir que la douleur d'un homme qu'on mène au supplice. Il avait redouté la solitude du voyage. Il ne souffrit presque pas. Il s'étonna de ce moment de répit que lui donnait le malheur. Il venait d'avoir une leçon de modestie trop sévère pour attribuer cette tranquillité à cette vaine philosophie qui faisait autrefois son orgueil. À cet égard, le malheur avait fait de lui un homme nouveau. Ses forces étaient épuisées par tant d'efforts et de sentiments violents. Il ne pouvait plus sentir. À peine fut-il descendu d'Andilly dans la plaine qu'il tomba dans un sommeil léthargique. Et il fut étonné, en arrivant à Paris, de se trouver conduit par le domestique qui, en partant, était derrière son cabriolet. Armance, caché dans les combles du château, derrière une persienne, avait suivi de l'œil tous les détails de ce départ. Lorsque le cabriolet d'Octave eut disparu derrière les arbres, immobile à sa place, elle se dit « Tout est fini, il ne reviendra pas. » Vers le soir, après qu'elle eut longtemps pleuré, une question qui se présenta fit un peu diversion à sa douleur. Comment cet Octave, si distingué par la politesse de ses manières, et dont l'amitié était si attentive, si dévouée, peut-être même si tendre, ajouta-t-elle en rougissant. Hier soir, lorsque nous nous promenions ensemble, a-t-il pu prendre un ton si dur, si insultant, si étranger à toute sa manière d'être, dans l'intervalle de quelques heures? Certainement, il n'a pu rien apprendre de moi qui pût l'offenser. Armance cherchait à se rappeler tous les détails de sa conduite, avec le désir secret de rencontrer quelque faute qui pût justifier le ton bizarre qu'Octave avait pris avec elle. Elle ne trouvait rien de répréhensible. Elle était malheureuse de ne se voir aucun tort, lorsque tout à coup, une ancienne idée se réveilla. Octave n'avait-il point éprouvé une rechute de cette fureur qui autrefois l'avait portée à plusieurs violences singulières? Ce souvenir, quoique fort pénible d'abord, fut un trait de lumière. Armance était si malheureuse que tous les raisonnements qu'elle put faire lui prouvèrent bientôt que cette explication était la plus probable. Ne pas voir Octave injuste, quelle que pût être son excuse, était pour elle une extrême consolation. Quant à sa folie, s'il était fou, elle ne l'en aimait qu'avec plus de passion. Il aura besoin de tout mon dévouement, et jamais ce dévouement ne lui manquera, ajoutait-elle les larmes aux yeux. Et son cœur palpitait de générosité et de courage. Peut-être en ce moment, Octave s'exagère-t-il l'obligation où se trouve un jeune gentilhomme qui n'a encore rien fait d'aller au secours de la Grèce. Son père ne voulait-il pas, il y a quelques années, lui faire prendre la croix de Malte? Plusieurs membres de sa famille ont été chevaliers de Malte. Peut-être, comme il hérite de leur illustration, se croit-il obligé à tenir les serments qu'ils ont faits de combattre les Turcs? Armance se souvint qu'Octave lui avait dit le jour où l'on apprit la prise de Missolonghi. « Je ne conçois pas la belle tranquillité de mon oncle le commandeur, lui qui a fait des serments et qui, avant la Révolution, touchait les fruits d'un bénéfice considérable. Et nous voulons être respectés du parti industriel. » À force de songer à cette manière consolante d'expliquer la conduite de son cousin, Armance se dit « Peut-être quelque motif personnel est-il venu se joindre à cette obligation générale, par laquelle il est fort possible que l'âme noble d'Octave se croie liée. L'idée de se faire prêtre, qu'il a eue autrefois, avant les succès d'une partie du clergé, a peut-être fait tenir sur son compte quelques propos récents. Peut-être croit-il plus digne de son nom d'aller montrer en Grèce qu'il n'a pas dégénéré de ses ancêtres que de chercher à Paris quelque affaire obscure dont le motif serait toujours pénible à expliquer et pourrait faire tâche.
Il ne me l'a pas dit, parce que ces sortes de choses ne se racontent pas à une femme. Il a craint que l'habitude de confiance qu'il a pour moi ne le portât à me l'avouer. De là, la dureté de ses paroles. Il ne voulait pas être entraîné à me faire quelque confidence peu convenable. C'est ainsi que l'imagination d'Armance s'égarait dans des suppositions consolantes, puisqu'elle lui peignait Octave, innocent et généreux. « Ce n'est que par excès de vertu, se disait-elle, les larmes aux yeux, qu'une telle âme peut avoir l'apparence d'un tort.